Radio Okapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Okapi.
Panique. Le gouvernement de la RDC a pris des dispositions pour stopper la chaîne de contamination de la maladie mystérieuse qui sévit dans l'Équateur. Les assurances sont du ministre de la Santé, Félix Kabangé-Numbi, revient de là. Bonne note pour l'évaluation des ULEO des stabilités effectuées cette semaine dans le Nord Kivu, notamment par la MONUSCO et le gouvernorat de province. Mais il est trop tôt pour faire un bilan pertinent, déclare le gouverneur Julien Paluku. Et puis, clôture hier à Kinshasa de la première revue conjointe du plan intérimaire de l'éducation. Plusieurs recommandations ont sanctionné ces travaux de 3 jours qui ont réuni les différents responsables de l'EPSP à suivre dans ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. L'actualité de ce matin, c'est d'abord ces précisions du ministre de la Santé sur cette fièvre hémorragique d'origine jusque-là indéterminée qui sévit dans la province de l'Équateur. Une maladie qui a fait 13 morts dont 5 membres du corps médical en l'espace d'un mois seulement, d'après le ministre Félix Kabangé-Numbi. Il a donné ses éclaircissements hier à Kinshasa devant la presse. Le ministre de la Santé publique revient donc de Boende où il a fait le tour de toutes les aires de santé qui sont frappées par cette maladie. Kabangé-Numbi rassure que le gouvernement de la RDC a pris toutes les dispositions afin de stopper la chaîne de contamination. Le ministre souligne enfin que les échantillons prélevés seront traités à l'INRB à Kinshasa et au laboratoire de Libreville au Gabon. Les propos du ministre Kabangé-Numbi recueillis par Emmanuel Elamiji.
Nous sommes arrivés à Boende et nous nous sommes rendus dans le secteur de Djera qui est le plus atteint. Nous pouvons ici dire qu'il y a suspicion de cas de fièvre hémorragique d'origine indéterminée. Nous avons audité et suivi 13 cas de décès. Sur les 13 cas de décès, nous en avons 5 membres du personnel médical, dont un médecin, 2 infirmiers titulaires, un hygiéniste et un garçon de salle. Nous avons distribué du matériel de protection dans toutes les aires de santé concernées. Il y en a 4 aires de santé où nous avons disponibilisé des médicaments et on a commencé déjà à suivre les cas en attendant les résultats de laboratoire. Nous avons fait des prélèvements. On vient de déposer ces 8 prélèvements à l'INRB. Des échantillons seront envoyés également à Franceville au Gabon pour le contrôle qualité. Nous espérons que dans les 7-8 jours qui vont suivre, nous aurons le diagnostic. Je tiens à vous rassurer qu'à Boende, c'est calme. Il n'y a pas de panique. La situation, je peux vous le rassurer, elle est sous contrôle.
Et puis, lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants. Janine Mabunda, dans l'est du pays, la conseillère du chef de l'État chargée de lutter contre ces deux maux, s'est rendue jeudi dans la province du Nord Kivu pour une mission d'écoute, a-t-elle indiqué. Et à cette occasion, elle s'est entretenue notamment avec les représentants des différentes couches sociales des populations de Rutshuru. La conseillère spéciale s'est dit d'ailleurs satisfaite de ses contacts et a promis de l'élargir à l'ensemble du pays. Janine Mabunda, au micro de Dona Madimba.
Mon travail consiste à recueillir les réalités sur terrain, recueillir les difficultés aussi que les gens connaissent sur terrain par rapport à ces violences sur les femmes et sensibiliser l'autorité suprême qui est déjà sensibilisée sur cette question pour que des solutions concrètes puissent être trouvées. Quand on parle de violence, on ne parle pas que de viol, on parle aussi de toute forme de maltraitance, toute forme de violence, de menace qui est adressée à la femme et qui ne lui permet pas d'exercer ses droits. Et donc bien sûr, il y aura des visites dans d'autres provinces. Mais je crois que par rapport à l'histoire sanglante que le pays a connue à l'Est, c'était de mon devoir comme citoyenne congolaise, par soutien et par respect pour les souffrances des sœurs de l'Est, de venir d'abord ici.
Évaluation des îlots de stabilité dans le Nord Kivu. Tout est bien et se termine bien, ont déclaré les autorités de la province. Une évaluation effectuée cette semaine par la MONUSCO, les partenaires internationaux et le gouvernorat du Nord Kivu à Rutshuru, Kiwanja et Walikale. Julien Paluku se réjouit donc de la collaboration de la MONUSCO et des résultats obtenus à ce stade. Il estime que Rutshuru et Walikale ont donné des bons exemples concernant ce nouveau concept d'îlot de stabilité. Mais quant au bilan, il indique qu'à ce stade, il est trop tôt pour faire un bilan pertinent. Le gouverneur Julien Paluku au micro de Dona Madimba.
Il est trop tôt parce qu'il n'y a que 3 mois que ces îlots de stabilité ont été rendus fonctionnels. C'est maintenant qu'on est à l'étape de déploiement des agents pour animer les structures. On est à l'étape de l'identification des besoins. Ce n'est qu'à la fin de l'étape de l'identification des besoins qu'on va définir les priorités et qu'on va définir les acteurs. Et que donc il est trop tôt de donner un bilan tant qu'on n'aura pas défini d'abord les besoins ensuite les acteurs qui vont attaquer les priorités telles que, je l'ai dit au départ, dans la démarche participative qui requiert ce nouveau concept d'îlot de stabilité.
Parlons justice à présent. Le collectif des avocats de Yves Kawapanga Mandro, ancien chef de guerre de l'Ituri, conteste le maintien en détention de son client à la prison centrale de Kisangani. L'ancien patron du groupe armé PUSIC a été condamné le 13 août dernier par la cour militaire de la province orientale à 9 ans de servitude pénale principale pour notamment crimes de guerre et crimes contre l'humanité, une peine que ses avocats estiment avoir déjà été purgée totalement par leur client qui, selon eux, est illégalement maintenu en détention. Des détails avec Jean-Paul Bassila.
C'est depuis 10 jours qu'Yves Kawa a été condamné à la cour militaire de la province orientale et sommé d'y verser plus de 80 000 dollars américains aux victimes. Ses avocats contestent son maintien en détention par l'auditeur supérieur auprès de la cour militaire de Kisangani. Selon eux, Yves Kawa a été arrêté à Bunia et conduit en prison le 9 avril 2005. Condamné le 13 août 2014 dernier à 9 ans de servitude pénale principale, équivaut à 9 ans de peine déjà purgée et calcul fait selon eux, c'est l'administration pénitentiaire congolaise qui est plutôt redevable à leurs clients par rapport aux 4 mois de détention supplémentaires. Ils accusent l'auditeur supérieur près la cour militaire de la province orientale de vouloir prolonger sans motif la détention des Kawapanga Mandro jusqu'au mois de décembre 2014 prochain. Joint hier vendredi au téléphone, le colonel Mwaka s'est réservé les toutes réactions à la prison centrale des Bunia. Le registre des coups confirme la date du 9 avril 2005 comme jour où Yves Kawa est arrivé et renvoyé dans une cellule de détention. Une situation qui illustre les déficits des communications entre l'administration pénitentiaire et les autorités judiciaires selon ses avocats. Bunia, Jean-Paul Bachila, Radio Capi.
Je vous le disais en titre, clôture de la première revue conjointe du plan intérimaire de l'éducation hier à Kinshasa. Les experts comptent entre autres améliorer la qualité de l'enseignement. C'est en tout cas ce qui ressort de ce séminaire qui a regroupé pendant 3 jours les différents responsables de l'EPSP, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les experts associés à la réforme éducative, notamment la société civile, ainsi que les représentants des élèves. Ces experts ont aussi tablé sur la gestion du système éducatif en RDC, le condensé de ses recommandations dans ce reportage de Jacques-Yves Molima.
En ce qui concerne en premier l'accès à l'éducation, le coordonnateur de la cellule d'appui technique au ministère de l'EPSP a souligné des avancées significatives. Valère Moussia.
Des progrès remarquables ont été constatés en termes d'objectifs quantitatifs, plus de 2 millions d'élèves additionnés en 3 ans.
Cependant, il est recommandé que la situation des enfants en dehors de l'école soit intégrée dans le système éducatif. Par ailleurs, le progrès n'est pas assez visible en ce qui concerne la qualité de l'enseignement où l'enseignant est au centre de la politique, d'où ses recommandations.
Poursuivre les efforts de revalorisation des conditions salariales et de la formation des enseignants. Que soit poursuivie la politique de budgétisation, mais également l'amélioration de la gestion des carrières des enseignants et le renouvellement du corps enseignant.
Quant à la question de la gouvernance, où les réformes institutionnelles n'avancent pas assez, il est recommandé entre autres de revaloriser et de renforcer les fonctions clés du ministère de l'EPSP et le ministre Makir Mwangu d'instruire.
Nous instruisons donc tous nos collaborateurs dans les provinces pour qu'ils continuent à travailler sous le leadership des ministres provinciaux en charge de l'éducation pour transformer ces recommandations en activités.
La prochaine revue se tiendra en province, qui reste alors à déterminer.
Parlons de la CENI à présent. Certains cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante révoqués seront déférés devant la justice et ce, suivant la gravité des faits leur reprochés. Ainsi en a décidé la plénière de la CENI à travers son rapporteur. Cette mesure intervient après l'annonce de la révocation de 96 sur 1250 cadres et agents que compte actuellement la CENI à travers toute la RDC. Dans une interview accordée à Radio Capi, Jean-Pierre Kalamba affirme que d'autres révocations vont suivre. Il est au téléphone de Jacques-Yves Molima.
La plénière a d'abord pris cette mesure pour donner le signal fort que réclamait la société civile, les partis politiques, les acteurs, même la communauté internationale, pour l'assainissement de l'administration électorale. Après cette vague de révocation, il y aura la vague des agents suivant la gravité des faits qui seront déférés devant les instances judiciaires. Et après, il y aura aussi, la semaine prochaine, un groupe de ceux avec qui on va se séparer à l'amiable ou ceux que nous allons aussi licencier avec réalité.
Et pour terminer, notez que le parti lumumbiste unifié a lancé hier les activités de commémoration des 50 ans du parti cher Antoine Gizenga. À cette occasion, le secrétaire général du PALU appelle le peuple congolais à la vigilance et les politiques à œuvrer pour l'intérêt général de la RDC. Antoine Gizenga l'a dit hier chez lui dans le quartier Bouma, commune de Lancélé. Ainsi s'achève ce journal coordonné par Lievin Mwinga et Askin Zigbia. La mise en onde de Héritier Sidiakala, merci de l'avoir suivi et très bon suite de programme sur Radio Kapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.